טוב, שלום עליכם, ברשותכם, ברשות הרב. Aujourd'hui nous allons traiter de l'Ag BaOmer et de la qualité cosmique que ce jour contient en lui depuis la création du monde. Vous savez que les fêtes dans le calendrier hébraïque ne sont pas une invention de l'homme. Toutes les fêtes, ce sont des énergies qui existent depuis la création. Dieu, dans le domaine du temps, qui est l'un des trois domaines de la création, il y a le temps, l'espace et les êtres, eh bien, a doté le temps, chaque temps, d'une qualité qui lui est propre. C'est-à-dire que depuis la création du monde, Dieu a planté dans la notion de temps des énergies spéciales. Et si l'homme est méritant, eh bien un jour dans l'histoire humaine, il captera l'énergie qui existe déjà. C'est-à-dire que la fête, en fait, n'est pas une invention qui est après un événement quelconque, mais l'événement existe en potentiel et il attend que l'homme puisse détecter et l'utiliser, utiliser son énergie pour justement le faire descendre sur terre. La Torah des secrets, qui est relative au jour du 33e degré du Homer, qui est le 18 du mois de Iyar, a en lui, ce jour-là, une qualité qui correspond à la vie. Alors déjà, le premier signe, c'est le 18. Mais en même temps, les sages nous disent dans le Talmud que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir en ce jour bien précis de l'Ag BaOmer. Alors, au-delà du fait historique que la mort de ses élèves s'est arrêtée ce jour-là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que ce jour-là, apparemment, a une qualité qui défie la mort. Autrement dit, la mort qui est arrivée dans le monde après la faute du premier homme, parce que le premier homme n'a pas goûté, n'a pas mangé de l'arbre de la vie et a préféré manger de l'arbre de la connaissance, eh bien, un jour dans l'histoire, et ce jour c'est apparemment l'Ag BaOmer, l'homme peut revenir à terminer ce malaise qui a été instauré dans le monde après la faute et ramener la vie. Ce qui veut dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est ni plus ni moins que l'arbre de vie, duquel nous n'avons pas encore mangé. Donc quiconque utilise maintenant, mange, consomme aujourd'hui l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, a toutes ses chances d'éradiquer la mort de ce monde, d'annuler la mort du monde. Et c'est d'ailleurs la résurrection des morts, c'est le but ultime. Ce n'est pas que la rencontre avec l'infini se fasse après la mort, mais au contraire, que la rencontre avec les valeurs du ciel se fasse durant notre vie. Et ça, c'est tout le secret de la Torah. C'est que cette Torah est tellement englobante qu'elle considère que l'esprit et la matière peuvent et doivent se marier. Ce n'est pas un esprit déconnecté. C'est un esprit qui a de la chair. C'est un esprit qui a un aboutissement. Comme le Rav Kook a nommé cette sagesse, Chokhma Poele. C'est une sagesse agissante. C'est-à-dire qu'elle a une qualité en elle, comme si elle avait des mains et des pieds, pour transformer l'homme qui l'étudie, l'homme qui s'y affaire. C'est-à-dire que cette sagesse, contrairement à toutes les sagesses du monde, si par exemple j'étudie la géométrie, on ne me demande pas, et je ne pourrai jamais devenir moi-même un triangle. Alors que dans cette Torah, au moment où je l'étudie, eh bien je suis traversé en fait par l'essence, la première essence de tout, c'est-à-dire la vie. Et donc, le maître de la vie, la source de la vie, l'infini béni soit-il, traverse l'homme qui ouvre les portes de la vie dans son étude. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, c'est dans le degré humain, cette qualité qui se retrouve dans plusieurs degrés de notre vie. Par exemple, dans le temps, Rabbi Shimon Bar Yochai correspond au Shabbat. Et d'ailleurs, ses élèves l'appellent Shabbat. Lorsqu'il rentre en classe, ses élèves disent Shabbat Shalom. Attention, il y a Shabbat qui arrive. C'est un homme, ce n'est pas un temps. Et pourtant, il y a la qualité du Shabbat à l'intérieur. À quel point les sages nous disent qu'il y a une correspondance, c'est que le nom Shimon Bar Yochai est en valeur numérique Shabbat. 1602. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose, une correspondance extraordinaire. Or, si nous savons la lumière qui se dévoile le Shabbat dans le monde, qui est une lumière de Hatzilut, une lumière d'un monde très très élevé, où là-bas dans ce monde on ne fait même plus la différence entre la lumière et les ustensiles qui la contiennent. Alors comprenez la valeur de cet homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui à l'intérieur de lui, c'est comme s'il n'y avait pas de différence entre son intériorité, c'est-à-dire sa neshama, et son extériorité, c'est-à-dire ce qu'il fait réellement de facto dans sa vie. C'est-à-dire que Tocho, Kebaro, son intérieur et son extérieur sont équivalents. Exactement comme dans le monde de l'émanation, où la lumière et les kelim, il n'y a pas de différence entre eux. C'est-à-dire que les vêtements de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont sa partie superficielle, ont la même sainteté que sa neshama, qui est sa partie la plus profonde. Ça, c'est la Torah des secrets. C'est-à-dire que la Torah des secrets n'a pas peur des différences. Au contraire, c'est le langage commun entre tous les degrés qui apparemment n'ont aucun rapport dans ce monde. Un exemple, vous êtes ici dans cette classe, plusieurs élèves, chacun d'entre vous a une spécificité. Mais vous êtes différents les uns des autres. Mais est-ce qu'il y a entre vous un degré qui est commun à tout le monde? Est-ce qu'il y a un langage qui est commun à tous les élèves? Bien, ce langage-là, c'est la Torah des secrets. Un autre exemple, pour que ce soit plus clair, vous avez un parchemin avec des lettres, la Torah. Les lettres sont écrites avec de l'encre noire sur un parchemin blanc. Mais vous savez que les lettres ne doivent pas se toucher entre elles. Si les lettres se touchent entre elles, le Sefer Torah est pasoul, on ne peut plus lire dedans. Ça veut dire qu'en réalité, chaque lettre a son propre monde. Et encore une fois, je repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient à toutes les lettres, tout en gardant et en observant leurs différences, les unes par rapport aux autres? Les sages nous disent oui, le parchemin. Le parchemin, le blanc, qui est entre les lettres, appartient à toutes les lettres, puisque toutes les lettres sont posées sur le même blanc. Donc, sous la lettre que tu vois, il y a du blanc, qui est commun au blanc qui est entre les deux lettres, et au blanc qui est sous la deuxième lettre, c'est la troisième et la quatrième. Ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun qui appartient à toutes les lettres, et c'est ce blanc. Ce blanc est un silence. Mais c'est un silence qui touche tout. Eh bien, ce silence, ce blanc, c'est la Torah des secrets. C'est pour ça que la traduction du mot secret en hébreu, en français, le secret, ce n'est pas une bonne traduction. En hébreu, le mot sod ne veut pas dire secret seulement, Il veut dire ensemble. La Torah du commun. D'où est-ce que je tire cela? De Yaakov, lorsqu'il bénit ses enfants, il emploie le mot Besodam. Et les sages nous disent que Besodam, en leur secret, dans leur secret, cela veut dire Bikhalam, dans ce qui les rassemble. Je traduis pour que ce soit simple, la Torah des secrets, c'est la Torah qui sait trouver le commun et qui ne s'affaire pas aux différents. Car cette Torah parle à la Neshama. Or, la Neshama est commune. Nos corps sont différents. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui en réalité est en train de ramener cette Torah, car c'est le dernier exil, vous savez que de chaque exil, nous avons extirpé une valeur de l'Égypte. Nous avons sorti la Torah écrite, car c'est la Torah écrite qui était emprisonnée en Égypte. Et donc, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont libéré la Torah qui était là-bas. Et donc, 50 jours après leur sortie, on leur donne la Torah qu'ils ont eux-mêmes libérée en sortant. L'exil de Babylone, c'est la même chose. Quand on revient de Babylone, on ramène avec nous la Torah de Babylone, c'est-à-dire une autre forme de Torah. C'est toujours la même Torah, mais avec un aspect différent, ce qu'on appelle la Torah orale. Eh bien, la Torah orale, qui était en Babylonie, enfermée dans cet exil, s'est libérée avec la libération des enfants d'Israël de cet exil. Et quand on rentre en Israël, on ramène avec nous ces étincelles de la Torah orale, dont nous connaissons aujourd'hui l'existence, le Talmud de Babylone. Donc la Torah écrite a été libérée d'Égypte. La Torah orale a été libérée de Babylone. La Torah des secrets, c'est la dernière libération. Elle aussi était en exil, dans l'exil de Édom et Ishmaël. Et aujourd'hui, lorsque nous rentrons de cet exil pour revenir vers notre terre, nous ramenons avec nous cette dernière partie de la Torah qui est la Torah des secrets. Donc nous libérons en fait les secrets de la Torah qui étaient enfermés jusque-là dans ces exils. Ce qui fait que nous avons libéré à ce jour trois niveaux de la Torah. Et le troisième niveau qui est le secret, le degré ultime, il a en lui bien entendu encore d'autres degrés que nous allons connaître au fur et à mesure de notre libération d'aujourd'hui.
Comme vous l'avez dit, la liaison entre cette chandelle et Shabbat et Ramchan Bar Yochai.
Shimon Bar Yochai, en valeur numérique.
C'est quoi la liaison?
Tout simplement parce que c'était juste un bonbon. D'accord? C'était juste un petit bonbon pour te dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, en lui, la Torah qu'il a dévoilée au monde correspond au Shabbat que tu connais. Or, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Shabbat, c'est un jour de délivrance totale, ce qu'on appelle la fin des temps. Yom Shekulo Shabbat, tu aspires, nous aspirons tous à rentrer dans le Shabbat de l'univers. Nous sommes aujourd'hui encore dans le septième jour de la création divine. On n'a pas encore atteint le Shabbat. Il n'y a pas un verset dans la Torah qui dit que le Shabbat s'est terminé. Vayehi erev, vayehi boker yom hashvi'i. Comme ça a été dit pour tous les jours de la semaine. Sous-entendu que le septième jour n'est pas encore terminé, donc on n'a pas encore pénétré dans ce degré qui s'appelle le Shabbat, le huitième jour. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous apporte, par son prisme humain, très spécial, cette valeur-là du Shabbat pour qu'on goûte déjà, même dans notre monde qui n'est pas encore terminé, des valeurs du Shabbat. Comme tu as la mitzvah de goûter un tout petit peu des plats du Shabbat avant que le Shabbat arrive. Donc vous comprenez qu'il y a ici quelque chose d'énorme et que ce jour de l'Ag BaOmer, au niveau du temps temporel, va marquer cette journée. Alors au niveau de la Kabbalah, il y a quelque chose de très précis dans cette journée-là. Je ne veux pas maintenant vous rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a une correspondance sirotique des sphères célestes dans tous les 49 degrés du Homer. Eh bien, les sages nous disent qu'au niveau des mesures des Midot, le jour de l'Ag BaOmer, qui aura lieu donc Motzei Shabbat qui vient, La spécificité, c'est qu'on arrive à une sphère, peu importe maintenant son nom, je le dis, mais ce n'est pas la peine de vous y attacher, Hod Shebehod. On ne peut pas la traduire en français, ça ne veut rien dire. Donc je laisse volontairement Hod Shebehod. Toujours est-il que je vais vous expliquer sa spécificité. Et vous allez comprendre quel était le rôle de Rabbi Shimon Bar Yochai dans ce monde. Eh bien, cette sphère, Hod Shebehod, sa qualité première, c'est de savoir prendre tout ce qu'il y avait avant elle et de le transformer en réalité. C'est-à-dire, c'est comme un switch, c'est comme un transformateur de toutes les valeurs de l'esprit en réalité matérielle, en réalité palpable, en réalité vécue. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que quand tu as une envie dans ta tête, quand tu as une pensée dans ta tête, est-ce que tu arrives à en faire une action ? Oui ou non ? Pas toujours. Si tu arrives à faire une action, c'est que cette pensée a traversé à un moment donné Hod Shebehod. Et c'est grâce à cette traversée-là, à cette sphère-là, que ta pensée peut devenir un jour une réalité. Transformer un rêve en réalité doit passer par ce degré. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui correspond à cette sphère, à ce point très précis, sa qualité première, c'est de savoir prendre les valeurs de la Torah et d'en faire des valeurs de royaume. C'est ce qu'on appelle la Malchut, le royaume d'Israël. Si aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai était devant nous, il aurait été un homme qui pense à la royauté d'Israël, à son royaume, et pas seulement à la Torah. Car la Torah, elle peut être étudiée n'importe où. Si elle n'est pas en relation avec sa nation sur sa terre, elle n'a pas la même valeur. Eh bien, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de Torah comme celle-ci. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Torah d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, avec un royaume d'Israël. Et lorsque ce royaume n'existe pas, c'est-à-dire que nous sommes dans une position sur notre terre où il y a une domination romaine, qui n'est pas la nôtre, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai est en deuil. Il comprend qu'en réalité, la Torah, ça ne suffit pas de l'étudier. C'est pas parce que tu étudies la Torah que ça suffit. Si tu n'es pas souverain sur ta terre, il y a un malaise, pas seulement au niveau de ce monde, mais au niveau de Dieu qui ne peut pas se réaliser dans ce monde. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai va sortir en guerre contre qui ? Contre une domination étrangère de la terre d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ? C'est ça que Rabbi Shimon ne supporte pas. C'est qu'il n'y ait pas de souveraineté juive sur la terre d'Israël. Alors il ne se dit pas, je vais monter ma petite yeshiva et on s'en fiche complètement. Non. Tout son but, c'est de construire un avenir dans lequel il y aura une souveraineté juive sur sa terre. Ça, c'est la Torah de la Kabbalah. Ça, c'est la Torah de la Malchut. C'est-à-dire du degré divin qui est la Torah, relié au degré manifesté qui s'appelle la Malchut. C'est-à-dire qu'il y a ici deux termes, Torah et Malchut. Deux degrés. Et Akadosh Baruch Hu dit dans le Midrash, au Tzadikim, lo yafe asitem. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas beau, bien que vous soyez des Tzadikim. Pourquoi ? Shezachartem et Torati, velo zachartem et Malchuti. Vous vous êtes occupé de la Torah magnifiquement, mais vous avez oublié la Malchut, c'est-à-dire le fait d'avoir une souveraineté d'Israël sur sa terre. Et ça, c'est pas beau, dit Akadosh Baruch Hu aux tzadikim des générations. Et donc, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai va corriger. Grâce à la Torah, et on va essayer de comprendre comment, pourquoi le Zohar, pourquoi la Torah correspondant à Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement liée à la terre d'Israël. Quel?
Ça correspond en plus à la personnalité de Rabbi Akiva, plutôt?
C'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, effectivement.
Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il n'y a pas autant de temps dans le Midrash complètement?
Justement, parce qu'il n'y avait pas de souveraineté juive sur la terre d'Israël. Donc ça ne sert à rien. Il ne s'est pas dit, je m'en fiche complètement, moi l'essentiel c'est que ma yeshiva marche, peut-être que même le gouvernement de Rome me paye les études pour mes élèves. Tu comprends?
Non, mais c'est
un isolé, non? Isolé parce qu'il n'y a pas d'existence. Il y a une halakha qui dit que lorsque tu es dans une ville de la terre d'Israël, et cette ville n'est pas sous la souveraineté juive, tu dois te déchirer les vêtements. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu étais en exil. Haroé Are Israël de Korbanan, Korea. Tu dois te déchirer les vêtements, tu es en deuil. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, au lieu de continuer comme si de rien n'était, il va isoler, il va enfermer en réalité toute sa pensée dans une boîte, le temps que l'Empire romain quitte cet endroit. Parce que ce n'est pas possible de diffuser la Torah dans cet état, de cette manière. Et comme il est seul, et qu'il ne peut pas encore faire les choses, alors en attendant, sa Torah est dans une boîte enfermée en attente. Mais cette Torah correspond à quoi? Je vous ai dit tout à l'heure à la Torah d'Eretz Israël. Or, la Torah d'Eretz Israël est liée, intimement liée à la prophétie. Vous savez qu'aucun prophète ne peut prophétiser en dehors d'Israël ou pour la terre d'Israël. C'est une règle. Ce qui veut dire que lorsque la prophétie s'est arrêtée dans le monde, c'est la Kabbalah, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui prend le relais. Donc les Mekoubalim, les Kabbalistes, sont en réalité le souvenir des derniers prophètes et l'espérance des prochains prophètes. Quand la prophétie s'est arrêtée, la Torah de la Kabbalah a gardé un tout petit peu une braise pour le retour de la prophétie dans le peuple d'Israël, ce que nous attendons aujourd'hui. Okay. On ne peut pas prophétiser. C'est-à-dire que même si un prophète il est en dehors d'Eretz Israël, toute sa prophétie doit être reliée à ce qui se passe en Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que la terre d'Israël seule est capable, encore une fois, de traduire les valeurs de l'infini dans un monde fini. C'est-à-dire qu'il y avait un trait d'union entre le ciel et la terre, il est seulement ici, géographiquement. On n'a même pas le droit de prier, en fait, en dehors de la terre d'Israël, vous le savez. Il y a marqué Beitpalelu Elai Derech Arsam. C'est seulement en direction de la terre d'Israël que tu dois prier Dieu. Tu ne peux pas, si tu n'as pas dans ta pensée d'être en Israël, ta prière en réalité, Chas V'Shalom, c'est comme si elle était adressée à des valeurs qui sont différentes de l'Éternel lui-même. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il veut prier, étant donné qu'il est en Égypte, ne peut pas prier. Et le texte nous dit clairement, je dois quitter l'Égypte à chaque instant pour prier, ouvrir mes mains pour demander à l'Éternel quelque chose. Et les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, c'est comme s'il allait en Eretz Israël à chaque fois qu'il voulait prier, il sortait d'Égypte. Vous comprenez jusqu'où ça va? C'est-à-dire que la terre d'Israël n'est pas seulement un lieu géographique, elle a en elle les qualités nécessaires pour traduire les valeurs de Dieu, de l'infini, dans le monde fini. Et c'est la seule terre qui est capable de faire cela. Ailleurs, c'est comme si tu ne pouvais pas traduire les valeurs du ciel dans le monde d'en bas. Quel est le nom de Dieu que vous voyez que vous ne dites jamais? Non. Yudke Vavke. Vous le voyez tout le temps, mais vous dites autre chose. D'accord? Alors que nous, nous espérons un jour que ce Yudke Vavke devienne quoi? Qui se manifeste dans notre monde. Comment est-ce que vous le dites? Adonai hu ha-Elohim. Eh bien, tenez-vous bien, la Gemara nous dit, quiconque n'habite pas sur la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Elohim. Pourquoi? Parce qu'il n'a que le tétragramme qui est dans le ciel et qui n'arrive pas à le faire descendre sur terre. Parce qu'il n'est pas à l'endroit nécessaire. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce Lag BaOmer, cette qualité de ce jour très 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 spécial, comment est-ce qu'elle nous dévoile et quel est le caractère de cette étude des profondeurs de la Torah. Alors, c'est un cours que j'ai écrit, mais vous allez voir que dès la partie où ça devient en gras, ce sont en réalité les paroles du Rav Kook. Yom Lag BaOmer, Huatzir, donc le jour de Lag BaOmer, c'est la charnière Hametzaref Marshava le Maase, qui arrive à traduire une pensée en acte. C'est très important de l'avoir dans votre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sinon, vous auriez que des pensées et jamais des pensées qui n'aboutissent. C'est très important. Autrement dit, cette Torah s'appelle Kabbalah car elle enseigne comment recevoir. Ech le Kabel. Comment recevoir quoi? Eh bien, les valeurs d'en haut, qui sont impalpables, comment est-ce que tu fais pour les recevoir dans ce monde? Donc, tu dois savoir recevoir. L'Igmod, le Kabel. Veyomze, donc ce jour-là, Mitgala Komata Ora Elohi, Derech Haraglaim, Hamaamidot et Kola Koma Eliona Al Karka Hametius. Ce jour-là, en réalité, correspond à une hanche. Chez l'homme, c'est la hanche gauche. Quel est le but de nos hanches? C'est d'apporter les valeurs d'en haut et de les faire marcher sur terre. C'est les hanches qui m'ont fait venir ici. J'aurais pu rester chez moi avec ma pensée. Les hanches me permettent d'aboutir à des jambes, c'est-à-dire à une marche, à une démarche de mon être, où je traduis les valeurs du ciel dans mes pieds. Ceux qui ont un problème de pied, ceux qui ont un problème de jambes, c'est que leur hanche ne fonctionne pas comme il faut. Et donc leur Torah va rester au niveau de l'esprit. Et on va les appeler ceux qui n'ont pas de jambes. Comment est-ce qu'on dit ceux qui n'ont pas de jambes? Meraglim. Les explorateurs, c'est pas des explorateurs, c'est ceux qui n'ont pas de jambes. C'est ceux qui ont une idée mais qui n'arrivent pas à la vivre. C'est ceux qui ont une pensée mais qui n'ont pas de pied pour la faire véhiculer dans ce monde. Et à cause de ce genre de problème, combien de personnes peuvent mourir? Un peuple entier, une génération entière, Rabotai, c'est très grave. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Eretz Israël, sauf deux personnes qui ont gardé leurs jambes. Alors quoi, la Torah ne suffit pas? Alors voilà, la preuve en est. La Torah a été reçue. Pourquoi ces gens-là ne méritent pas de vivre? Si la Torah est tellement grande et qu'elle se suffit à elle-même sans avoir besoin de la terre, eh bien nous avons ici une génération toute entière qui se trouve dans une yeshiva énorme qui s'appelle le Mont Sinaï, dont le premier grand rabbin, c'est Moshe Rabbeinu. Qui mieux que toi? La preuve, c'est que ça ne suffit pas. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous demande insistement de quitter cette montagne, c'est-à-dire de sortir de la yeshiva. Comment est-ce qu'il nous dit? Rav lachem shevet bahar azeh. J'en ai marre que vous soyez dans cette yeshiva. Tnu usharu lachem. Je vous demande de voyager pour venir sur la terre d'Israël. Alors les gens qui étaient très très religieux à cette époque auraient pu demander à Kadosh Baruch Hu, mais à Kadosh Baruch Hu, on fait ce que tu nous demandes. On étudie la Torah, on mange kasher, nos enfants sont dans des écoles juives, tout va bien. Et Akadosh Baruch Hu répond, bah du tout, c'est pas ce que je vous ai demandé de devenir. Je ne vous ai pas demandé de devenir des religieux, je vous ai demandé de devenir une nation sur sa terre qui applique les lois du divin. C'est différent. Vous avez fait de ma Torah une religion? Vous avez déformé mes paroles. Je vais un petit peu plus en arrière. Si ça suffisait de recevoir la Torah, on aurait pu rester en Égypte. En montant des communautés égyptiennes avec le grand rabbinat de Memphis. Kashrut, Rabbanout d'Alexandrie. Qui mieux que nous? On avait des yeshivot là-bas. Yehuda, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a ouvert des Talmud et Torah. Pourquoi ne pas rester en Égypte? Tu vois bien que ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Arrêtez de faire dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas elle-même. Elle nous fait sortir pour nous amener sur une terre, pour qu'on devienne un peuple que nous ne pouvons pas vivre en dehors. Quel?
Là, il nous a demandé que
Quel? Parce qu'ils ne comprennent pas en fait pourquoi on dit Dayenu. Le Dayenu qu'on dit quand on est sorti d'Égypte, c'est pour la Torah des secrets que nous avons déjà reçus au moment où nous sommes déjà rapprochés de la montagne. Alors il faut étudier ça aussi, bien entendu, mais je ne peux pas le faire maintenant. Toujours est-il que, deuxième ligne, Be'elag Ba'omer, troisième ligne, Apnimiut Mofia Klapeichut. Voilà ce qui se passe. C'est que l'intérieur sort vers l'extérieur. Vous êtes capable de le faire ça? Vous êtes capable de ne pas mentir? Je vous pose une question, ce n'est pas rhétorique. Est-ce que vous êtes capable d'être vrai? Que vous avez dedans, le vivre dehors? Malheureusement, la plupart des gens vont dire non. Je ne peux pas, j'avoue. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à vivre complètement notre intériorité dehors? Pourquoi nous mentons? Pourquoi on est tous un petit peu des menteurs? Eh bien, ce jour-là, il y a un modèle humain qui arrive à le faire. Vous savez que lorsque Dieu a dit « Je veux créer l'homme », qui il avait en face de Dieu? Vous l'avez. Vous le dites en plus. Vous le chantez. Vous avez déjà chanté Bar Yochai? Bar Yochai, Minshachta Ashrecha, vous connaissez? Eh bien, à un moment donné, Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à qui il a pensé? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Autrement dit, pour Akadosh Baruch Hu, c'est le modèle parfait. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un homme qui n'a jamais, au grand jamais, quitté la terre d'Israël et qui était le plus grand des sionistes. Ça, c'est le modèle de Dieu. Une Torah sur sa terre avec une souveraineté. C'est-à-dire le premier dati leoumé de l'histoire. Les bar mikoufa, et là j'emploie un terme de la Kabbalah, où justement ce jour-là de lag ba'omer, qu'est-ce que c'est lag en hébreu, à part 33? C'est les lettres de gal. Gal et lag veut dire dévoiler les galops. Gal, une vague. Gal, gal, une roue, c'est-à-dire quelque chose qui te dévoile sans arrêt. Gilgoul, réincarnation, c'est la même racine. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la capacité à revenir sans arrêt vers le bas. Qu'est-ce que c'est se réincarner? Amener une neshama dans un corps. Donc descendre du très haut vers le très bas. Mais c'est la même chose. C'est ça?
Un gigoule ne se dévoile pas. Et toi, qu'est-ce que tu es maintenant? Ah, alors, tu te dévoiles ou pas?
Non, les gigoulines ne se dévoilent pas.
Les gigoulines se dévoilent, sinon ce ne sont pas des gigoulines. Les gigoulines, c'est ce que je vois. C'est rentrer dans de la peau, c'est rentrer dans du chair, rentrer dans du sang. Donc je te vois. Aleshama a réutilisé un nouveau corps qui n'était pas. Avant ce que tu étais, maintenant tu étais quelqu'un d'autre. Mais là-bas, elle n'a pas terminé son travail, elle est revenue chez toi. Elle se voit. Et c'est ça le secret. C'est la capacité de traduire une pensée en réalité. Par exemple, en parlant. Qu'est-ce que vous faites en parlant? Eh bien, vous traduisez une pensée par votre verbe. Donc, le seul fait de pouvoir parler, c'est déjà un switch. C'est déjà une manifestation de la pensée. Vous croyez que c'est facile? Essayez d'enseigner. Vous allez voir la difficulté. T'as envie de dire des choses et tu ne sais pas comment. Tu commences des phrases et tu ne sais pas les terminer. Vous croyez que c'est facile? C'est un travail incroyable que de prendre une pensée, de la traduire avec des mots, juste, sans broder, sans rajouter des choses. C'est terrible. Et plus tu es précis dans ce que tu dis, plus c'est clair que ta pensée est claire. Et plus, quand tu parles, c'est embrouillé, plus je comprends que tu ne comprends pas. Jusqu'au moment où tu te dis, bon, je me comprends. Mais on s'en fiche que tu te comprennes, toi. Si les autres ne te comprennent pas, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai a pris cette force céleste et la traduit en réalité. Umamricha basé shlemut abinyan. Et c'est comme ça que l'édifice est complet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un édifice? Un haut, un centre et une manifestation avec des pieds, des jambes. Comment est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu terminera un jour son histoire humaine? Quel est le texte qui nous le dit? Que ses pieds, les pieds d'Akadosh Baruch Hu entre guillemets, même s'il n'en a pas, c'est pas des pieds comme on croit, se poseront un jour sur le mont de Zolivier. Ve'amdu bayom ha'ur adlav al har ha'zeitim. Le jour où Dieu pose ses pieds sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il s'est dévoilé, qu'il a enfin trouvé une assise. Et qui aide Dieu à trouver cet assis? Le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Comprenez l'importance de ce retour? Vous croyez que c'est juste, ah oui, moi je peux pas, l'autre il a pas trouvé un boulot, je sais pas comment faire. C'est vrai, c'est des considérations personnelles, mais tu es en dehors du système que Dieu veut. Ne l'oublie pas. Au moins ne mens pas. Sois honnête et dis, je ne peux pas réaliser la volonté de Dieu aujourd'hui, parce que j'ai des intérêts personnels qui m'empêchent. Généralement relatifs à l'argent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi David Abraham Azoulay dans son livre Chesed l'Abraham, qui dit que lorsque le Mashiach va venir, il va y avoir des avions qui ne vont pas arrêter d'arriver. Mais le Mashiach, qui va les attendre où? À l'aéroport. Il va leur dire, quoi, vous venez maintenant? Il dit, parce que tu t'es dévoilé, notre roi Messie. Pas celui de Barcelone. Hein. Le vrai Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Dit Rabbi David, Abraham, Azoulay, donc Chesedla Abraham. Ah, donc vous êtes resté jusqu'à maintenant parce qu'il y avait de l'argent à gagner là-bas. Vous n'avez pas pensé à votre peuple. Maintenant que je me suis dévoilé, c'est simple, il y a des avions qui n'arrêtent pas de venir. Alors vous savez quoi, on va faire une affaire entre nous. Puisque vous êtes resté pour votre argent, eh bien je ne peux pas vous donner la même valeur que ceux qui étaient là avant que je ne me dévoile. Ouvrez Rabbi Abraham Azoulay. Vous allez voir ce qu'il dit là-bas dans son Nahar Kaveh. Alors, je vais vous donner plein de sites. Vous allez avoir plein de sites. Mais ceux-là, ceux qui étaient là avant, ils vont venir avec moi étudier la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et il va y avoir des manifestations. Pourquoi on n'est pas comme eux? Nous aussi, on est des Juifs. Et le roi Mashiach de leur dire, c'est vrai, mais eux ont pensé à leur Neshama, et vous avez pensé à votre corps. Donc chacun va rester à son niveau. Vous croyez que tout le monde va avoir la même lumière? Al-Khashibut Limut Torah Tassod. Donc l'importance de cette étude, de la Torah des secrets, de l'Agba Omer, ça me fait rire et des gens ils vont allumer des veilleuses. Mais ils ne savent même pas pourquoi. C'est bien d'allumer une veilleuse pour Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est encore mieux d'étudier sa Torah. Ah mais on m'a dit que c'était dangereux. Vous connaissez tous des histoires de quelqu'un qui se balade tout nu dans un hôpital de fou, n'est-ce pas, avec un zohar à la main. On vous a tous raconté des histoires pareilles. Incroyable. Incroyable. Comment le Satan est fort pour embrouiller les gens, pour retarder la rédemption d'Israël, a dit Oula. Le zohar lui-même le dit. Vous savez pourquoi la Géoula ne vient pas? Parce que vous n'étudiez pas mon livre. Bien fait, bon Hashem. Al Khashibut Limud Torah Tassot Katab Rav Kook. Voilà ce que le Rav Kook nous écrit concernant l'importance de cette étude. Igrot Areaya. Rachbe.
Pourquoi alors c'est pas descendu à l'époque de Rav Kook?
C'est descendu. Seulement ça a été parce que c'était que lui. Il n'y avait pas encore de souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure. La Géoula, c'est quoi? C'est un roi. S'il n'y a pas de roi sur la terre d'Israël, tu peux étudier toute la Torah du monde, ça ne sert à rien. Ça ne suffit pas. Le Mashiach, c'est pas un rabbin. Le Mashiach, c'est un roi. Melech HaMashiach, pas Rabbi Mashiach. S'il veut être rabbin, il n'y a pas de problème. Mais il doit être roi.
Il doit avoir des connaissances.
Il doit avoir des connaissances. Mais ce n'est pas ce qui fait de lui Mashiach. D'accord ? Il peut être, mais il est d'abord et avant tout roi. Quand Rabbi Akiva était le grand rabbin de l'époque, pourquoi il ne s'est pas désigné lui-même comme Mashiach ? Pourquoi il est allé désigner le Ramatkal de l'époque ? Parce qu'il a vu dans le Ramatkal de l'époque, les chefs des armées, le Mashiach. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva et tout le rabbin qu'il était ? Il courait derrière lui avec les ustensiles de l'armée. Ça, c'est un rabbin. Hein ?
Il
n'a pas perdu. C'était juste une leçon pour nous enseigner qui est et qui ne peut pas être le roi Mashiach. C'est une leçon pour nous aujourd'hui. C'est un degré de plus dans la Géoula. La Géoula, c'est pas un bloc, c'est pas ou tout ou rien. Chaque année, ça vient un petit peu plus. Avec la connaissance que tu acquiers. Que le peuple acquiert. Mawalimuda Yesodi Shel Chokhmat HaEmet. Pose la question, le Rapprou. Quelle est l'étude fondamentale de cette sagesse de vérité? Imlo, si ce n'est que Aperusha Mekubal Shel Emunat Israel Bechol Marom Kdushata Vetaharata. L'étude de la Emuna d'Israël dans toute sa grandeur, dans toute sa sainteté et dans toute sa pureté. Je vous demande une question. Qu'est-ce que c'est la Emuna? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire que veut dire le mot Emuna? C'est ce que le Rav nous dit en premier. Emuna. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire ce que représente la Emuna? Qu'est-ce que c'est? Confiance? Bitachon.
Non, délicat, pas le...
Non, 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 c'est une réalité. Une réalité. Café, c'est plus proche, toi. Un lien direct, mais pourquoi? Comment tu prends ça du mot Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, le verbe, les amen? C'est le relier au mot Emet. Certifié. Café, mais j'ai entendu. C'est-à-dire, les amen, c'est certifié. Qui tu peux le mieux certifier dans ta vie? Réfléchissez bien avant de répondre. Il y a fait mieux toi-même. Pourquoi? Parce que tu te vis. Tu vis ta vie. Tu n'as pas besoin que ce couple était vivant, non? Sinon, c'est très fatigué. Je vis donc, je suis là. Je certifie mon être. En qui c'est le plus difficile d'avoir la Emouna? La chaîne. C'est très difficile de certifier Dieu, vous comprenez? Alors que les gens, ils te disent, ah, moi, j'ai la Emouna. Alvaï. Je crois que c'est aussi simple que ça. Moi, je crois pas en moi, mais je crois en Dieu. Ah, rien compris. Il y a ni croire, ni pas croire, c'est pas du tout les traductions, tout est erroné. Et donc, le Rav, quand il dit ici qu'il faut avoir une Emouna d'Israël dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, dans toute sa pureté, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il faut certifier quoi? Ce que représente Israël. Est-ce que tu certifies l'Israël qui est en toi? Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou pas? Le peuple d'Israël, la notion Israël, la Neshama d'Israël est quelque chose d'immense, d'infini, que Dieu a créé. Est-ce que toi, ta petite personne, arrive à certifier cette grande Neshama dans ta vie de tous les jours?
Comment
les certifier? En vivant ces valeurs de ce peuple d'Israël. C'est-à-dire être sur sa terre, étudier sa Torah, faire ses guerres, pour ne pas que quelqu'un d'autre soit à ma place ici, tout simplement. Vivre sa pleine vie. Est-ce que tu vis ton peuple? Ou bien pour vivre ton peuple, tu regardes la télé, pour savoir ce qui se passe en Israël. Tu vis ton peuple? Oui, tu es là. Ça veut dire que tu vis la notion de ton peuple, c'est ce que le Rav est en train de nous dire, dans tous ses niveaux. שבכל מה שהעזיבה הולכת ומתרבה ותורה בלעילה מופרת, et plus vous allez laisser la Torah supérieure pour vous occuper d'une Torah, ça va faire mal. Qui n'est pas la Torah des secrets. C'est-à-dire que si votre étude tout entière se résume à la Gemara, il y a un problème. Bien fait. Mais si tu ne sais pas les délecter, les déceler, tu ne pourras pas monter. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav. Vous allez voir tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas compris l'importance de cette étude la plus profonde, qu'est-ce que tu fais? Le chant, c'est que la Shrina dans la Kabbalah s'appelle Chakal Tapuchim, le chant. Eh bien, le champ, au lieu de se remplir de fleurs et de fruits et d'arbres fruitiers, se remplit de ronces et de chiens-dents. À cause de toi. Vive les Nekuda Taora chez les Mouna Telo Israël. Et tout ça parce qu'on n'a pas touché le point de la Emouna du Dieu d'Israël. C'est-à-dire, on ne certifie pas le Dieu d'Israël, malheureusement. Parce que notre étude ne correspond pas à cette génération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite changer. Il faut vite comprendre. Il faut vite commencer à étudier. Il faut exiger un cours. D'où est-ce que je sais que vous êtes dans la meilleure yeshiva du monde ici? Pas parce que je fais partie. Tous les jours, je me pose la question, est-ce que je change ou pas? Donc à chaque fois que j'y suis, c'est que j'ai redécidé encore une fois de dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une porte en bas, il y a marqué Kitat Emouna. Montrez-moi une yeshiva dans le monde où il y a marqué Kitat Emouna. Cours de Emouna. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on étudie dans une Kitat Emouna?
Non.
Il y a de la marchava, il y a de la hashkafa.
Il y a juste le maître d'arabe là-bas, il est chez Emouna.
Il y a une kitat, c'est Mouna. Le Kazarab, c'est ici, c'est une branche, c'est la même chose. C'est la même racine, c'est la même Torah. Ça veut dire que si tu n'étudies pas la Emouna, et encore une fois, qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est comment certifier ton peuple? Est-ce que tu as compris, Bichlal, qui est ton peuple? Ben, t'es à côté de la plaque, et tu peux étudier la Torah toute la journée. Asmachim Araim. Qui fait en sorte que tu vas faire pousser des arbres et des herbes mauvaises. Et inam tsrichim avoda. Et tu sais comment elles poussent ces herbes mauvaises? Sans aucun travail. Laissez un champ. Vous revenez deux semaines ou trois semaines après, qu'est-ce qui se passe? La panique, on dirait la forêt. Pourquoi ça pousse? Pourquoi j'ai du mal à faire pousser des fleurs et des fruits? Alors que les ronces et toutes ces herbes mauvaises poussent d'une manière extraordinaire toute seule. Vous voyez la différence en ce monde? Alors, quand tu laisses quelque chose, ça pousse mal. Quand tu t'occupes de quelque chose, tu as du mal à faire pousser. Mistor Atzlut, et tout ça, c'est pourquoi, dit le Rav? Parce que vous êtes des Atzlanim. Qu'est-ce que c'est Atzlanim? Des paresseux. Tout ça, c'est à cause de la paresse. Mais atzmam hem gedelim. Et donc tu laisses en fait ton champ intérieur, et ton champ intérieur te fait pousser des ronces et des mauvaises herbes au lieu de faire pousser des fleurs et des fruits. Ve'adorazé halakui kol kach ve'machala taksira. Et cette génération, dit le Rav Kook, qui est tellement malade de ça, she'irifion haemuna, parce qu'il n'étudie pas l'haemuna, il a lâché complètement cette étude. Aïm en la nouvietod, l'omar, est-ce que je ne peux pas, moi, dire, chez les tchouato anoufrichim, que j'ai besoin maintenant, vite, de sauver cette Torah qui est emprisonnée, la Kabbalah, et de la faire sortir et d'enseigner à mes élèves? Les arbot de Torah ta emouna. Et donc, je dois multiplier les cours de emouna à mes élèves si je veux que ces élèves deviennent normaux.
Quel?
D'accord.
Ah,
C'est de la Emouna.
Ah, pourquoi il y en a qui étudient la Kabbalah,
qui étudient
la Kabbalah et qui ne sont pas arrivés à ce niveau de compréhension?
Parce que justement, même dans la Kabbalah, il faut savoir comment l'étudier. C'est pour ça que je vous dis...
Non, mais d'après des grands maîtres,
c'est là, c'est là. Alors, les grands maîtres de la Kabbalah, d'abord, tu ne les connais pas. Alors, d'où tu sais qu'ils sont comme ça ou comme ça? Tu n'as pas le droit de les juger. Un grand maître de la Kabbalah, il te dit exactement ce que le Rav est en train de te dire ici. Vekolzman, écoutez bien maintenant, ça va faire mal. Chez l'orthodoxie. Et si l'orthodoxie, Omer et Be'akshanout, continue à être têtu, et dire d'Afkalo, on ne veut pas étudier ça, Rak Gmara Veposkin, on veut étudier que la Gmara et les Poskin, les Vadam, seuls, laisse-moi tranquille de toute cette Torah, vous êtes des malades. Le Rav Kook, hein, c'est pas moi, hein, j'invente rien du tout. Hein. Lo Agada, je veux pas de Agada. Même dans la Gemara, lorsqu'il y a une petite page de Agada, on saute. Pas intéressant, il vaut mieux la halakha. Lo Moussar, j'ai pas envie de Moussar. Lo Kabbalah, j'ai pas envie de Kabbalah. Lo Meskar, j'ai pas envie d'approfondir. Lo Da'ata Olam, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans le monde et de faire des connexions. Velo Chassidut, j'ai pas envie d'étudier la Chassidut. Arem et Daldel et Tetatma, vous savez ce qu'elle est en train de faire cette Torah? Elle est en train de s'appauvrir. Vekola Emsaim Shilo Pachad Beyada Lagen Alatma, et tout ce qu'elle prendra pour se défendre, Nibli la Kachat et Samachaim, tant qu'elle n'aura pas touché l'élixir de vie qui est le Zohar, à Amiti, Ora Torah Bepnimiuta, la lumière de la Torah dans sa profondeur, Emla Lole Ezer Velole Ruil. Ça ne sert à rien du tout. Elle va tomber. Avec mes mots à moi, tant que la Torah n'aura pas compris qu'elle doit associer dans son étude les secrets, cette même Torah deviendra Chas v'Shalom pour les élèves un poison. Vous savez qui c'est qui le dit? Avtalion. Vous avez entendu parler de Avtalion? Shmaya et Avtalion? Eh bien, regardez ce que dit Avtalion dans Pirkei Avot. Avtalion Omer, Avtalion dit, on dirait que c'est tout ce qu'il a dit dans sa vie, quoi. Il dit, c'est-à-dire un jour il a dit, non, c'est-à-dire Avtalion Omer, il n'a qu'une seule chose à dire, une seule chose, toute sa vie, il n'arrêtait pas de dire cette chose. Chachamim, Izaharu Bedivrekhem. Si vous êtes sage, faites très attention à ce que vous dites. Et en réalité, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Izaharu, ça vous rappelle quoi? Zohar. Izaharu bedivrechem, mettez du Zohar bedivrechem dans vos paroles. Vous savez pourquoi? Si vous ne le faites pas, Shem atachobu chovat galut, vous allez sortir en exil. Vous allez ouvrir une yeshiva au fin fond de je ne sais pas où. Et tous les matins, vous allez faire une petite chagouta. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. C'est Mishnah. Veyavo ou Atalmidim, c'est pas fini. Les élèves qui vont venir, parce qu'il y aura des élèves, ils vont vous suivre. Ah, j'ai un rave extraordinaire. Eh bien, ils vont goûter de votre Torah, ils vont boire de l'eau amère et ils vont mourir. Comme ça dit Atalion. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Quel? Pas du tout. Encore une fois. Tant qu'il n'y a pas de royauté. Je ne te parle pas de venir juste habiter ici. Quand tu viens habiter ici et qu'il n'y a pas de royauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté, tu ne fais pas la mitzvah d'habiter en Israël.
Ce que veut dire ceux qui vous disent « je veux bien être en Israël, j'adhérerai, ce serait pas les villages. »
Il y a fait. C'est en réalité pas le kiyum de la mitzvah. Et je vous ai donné la preuve tout à l'heure. Que si tu vois une ville qui n'est pas souveraineté Israël, alors que c'est la frontière israélienne, tu dois te déchirer le vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est même Amoraïm, c'est même Tanaïm, tous. S'il y avait Médina Israël à leur époque, ils seraient jamais là-bas, ils seraient ici. Quel?
On n'est pas obligé.
On peut. Ça fait peur quand même. On peut. Sache qu'il y a une explication comme ça. Et elle est claire. Comment est-ce que tu peux m'expliquer, toi, comment comprendre différemment que si tu n'étudies pas la Torah comme il faut, tu vas aller en exil? Autrement dit, si tu es en exil pour étudier la Torah, c'est que tu es déjà dans l'erreur. Moi, je ne sais pas comment comprendre, hein, je te traduis la Mishnah. Et tes élèves vont mourir après toi. La Torah, la vraie Torah, qu'est-ce qu'elle doit faire normalement? Si c'est ça, elle doit te ramener sur sa terre. La preuve, c'est que si elle n'est pas bonne, tu vas aller en exil. C'est écrit. Donc une mauvaise Torah t'amène en exil. Une bonne Torah, elle est censée te ramener sur ta terre. C'est complètement logique. Et pourquoi c'est logique? Parce que c'est ce que Dieu demande. Est-ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'aller ouvrir des yeshivot en dehors d'Israël? Pas du tout. Abraham Avinu, il était grand rabbin. Pourquoi Dieu ne le laisse pas là-bas? Pourquoi il lui dit, stop, arrête tout ça s'il te plaît. Je veux qu'il aille maintenant fonder une nation sur ta terre. Et si Abraham c'est un grand rabbin, qu'est-ce qu'il aurait dit à Kadosh Baruch Hu? Mais je suis religieux. Regarde, j'allume les Hanoukiot, moi, devant toute la communauté. Je dois m'occuper de tout le monde ici. Je ne dois pas partir. Tu ne peux pas me demander ça, Dieu, je suis religieux. On a ouvert une boucherie cachère la semaine dernière. Tous les enfants de la communauté vont dans une école juive. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, chut, laisse les chats. Barre-toi. Et là, arrête ta chère arrière, ben, elle sera les goy gadol, je veux pas que tu sois un religieux, je veux que tu sois une nation. Ça, c'est Torah ta Kabbalah, Rabotai. Si vous n'avez pas compris encore ce degré-là, il est grand, grand, grand temps de se réveiller. La Torah, c'est pas une étude virtuelle. C'est pas j'ouvre un texte, peu importe où je suis dans le monde. La Torah, elle appartient à un lieu, comme elle appartient à une race. Elle appartient à des valeurs bien précises, et c'est pas nous, ni toi, ni moi qui les fixons. C'est à Kadosh Baruch Hu lui-même. Tiens. Le Vadan. Chaque fois que tu as le mot Zohar, c'est Zeirut. Et la preuve, c'est que l'élève, après quelques générations de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Ari HaKadosh. Et qu'est-ce qu'il a écrit comme livre, le Ari HaKadosh? Un livre. Essentiel. Et Chaim, l'arbre de la vie. Ça te rappelle quoi l'arbre de la vie? C'est ce que Adam et Chava n'ont pas voulu manger. Qu'est-ce qu'il te dit le Harizal? Maintenant, mange. Quel?
Pour étudier la Kabbalah, il faut être vraiment religieux.
Il faut être religieux. Phrase de Shalom. Il faut faire partie du peuple d'Israël. Il faut faire partie du peuple d'Israël. Ne me n'emploie pas des termes de chrétien.
Alors il faut avoir une idée connaissance autant.
Ah, je commence à m'intéresser. Oui, c'est vrai. Et alors? Et tu m'as rien dit là. C'est comme si tu me disais, Rav, pour sortir, il faut mettre des chaussures.
Non,
d'accord, oui.
Il y a des gens qui peuvent pas dire.
Je veux juste que tu comprennes la marche à suivre. Et que tu saches, toi, dans ton étude, demander à tes maîtres un tout petit peu, donne-moi un tout petit peu de, un petit bonbon de temps en temps de cette Torah. J'en ai besoin. Tiens.
Ah, mais quand tu travailles
par
motivation pour rester
en
Galut, c'est pas du tout la France.
La même chose. Parce que tout simplement, c'est parce que Dieu veut. Akadosh Baruch Hu veut ce qu'il a dit dans sa Torah. Si tu as un problème avec ce qui est écrit dans la Torah,
c'est autre chose.
Moi, je lis ce qui est écrit. Toda Rabba.